Bonsoir. Thierry de Creusy vous remercie d'écouter son émission consacrée à la dissidence musicale. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité quotidienne sur le canal Telegram Front Musical. Exceptionnellement, ce soir, l'émission s'ouvre avec une chanson. Les paroles ont été écrites par Vincent, un camarade lyonnais qui connaissait Quentin, le jeune qui a été lynché vendredi dernier. Quoi. C'était assez horrible. Et donc la chanson a été écrite et enregistrée très simplement. Donc vous allez, voici pour Quentin, dédié à ce jeune militant catholique tué après un lynchage par des antifas. Merci à l'auteur de cet hommage.
Pour Quentin. Quentin, ton âme s'en est allée vers la Reine Immaculée. Chante et pleure notre cœur mutilé, espérant dans le ciel étoilé que les saints vont repeupler, que les saints vont repeupler. Jeune catholique patriote, pieux en quête d'engagement, devenu parrain de son papa, il a converti toute sa famille, un militant exemplaire, un militant exemplaire. Lynché, frappé par des voyous, il protégeait ses amis. Un coup mis fin à sa douce vie, nous prions pour toute sa famille. Le ciel lui ouvre ses portes, le ciel lui ouvre ses portes. Vole, vole notre prière vers Marie, ô tendre mère. Accueillez aujourd'hui notre ami qui le chante ce soir, la gloire du Père. Louange à Dieu Trinitaire, louange à Dieu Trinitaire.
Encore merci à Vincent. Alors, le front musical s'est considérablement éclairé avec les dossiers Epstein. Epstein n'est pas Epstein, évidemment. Son volet musical a apporté son lot de révélations, en grande partie annoncées par ceux qui étaient désignés antérieurement comme des complotistes. Tout d'abord, le volet français de l'affaire a créé un séisme avec la démission de Jacques Lang, véritable icône de la gauche culturelle, ancien ministre de la Culture sous Mitterrand, créateur de la Fête de la Musique, instigateur avec Attali des concerts de SOS Racisme visant à détourner l'électorat de l'échec économique du programme commun avec la musique. Propre d'Epstein avec sa fille qui figurait sur le testament du pédophile et qui a aussi démissionné de tous ses postes dans le cinéma. Marianne annonce que Gallimard suspend la parution du prochain livre de Jacques Lang, Ma vie avec François Mitterrand, dont la sortie était prévue en mai. C'est la descente aux enfers pour Jack. La France est le pays le plus impliqué avec l'appartement Avenue Foch et Brunel Benchamoul, le fournisseur de jeunes filles. Le trafic impliquait les représentants de l'État. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a refusé l'ouverture d'une enquête parlementaire. Elle était avocate dans le cabinet chargé de la défense de Brunel. La complicité de l'appareil d'État est incontestable, au moins depuis la courageuse dénonciation de Roger Olyndre lors de l'université d'été du FNJ en 1998. Elle est disponible en ligne sur YouTube. En accusant Jacques Lang de viol et de meurtre d'un jeune enfant dans l'affaire du Corral, il avait déclaré « que l'on m'arrête à la sortie si ce n'est pas vrai ». Il n'avait pas été arrêté, mais aucune enquête n'avait été ouverte. Le Figaro titre « La chute de Jacques Lang pourrait signifier le crépuscule du gauchisme culturel ». Le titre est contraint, le terme idoine aurait été « hégémonie ». La question est de savoir si des politiques sont positionnées avec un vrai projet musical dissident. Le Monde situe le front culturel. Il y a donc bien un front musical à tenir pour faire entendre les repères sonores des communautés vivantes. Une hégémonie culturelle est en cours d'effondrement. On peut s'en réjouir, il faut aussi la remplacer, et pour ça, il faut aussi un projet politique culturel. Le dossier Epstein a ouvert les vannes des égouts du mondialisme, et les musiciens cités dans les dossiers sont nombreux, confirmant le rôle dans l'emprise psychique exercée par l'industrie musicale. Bono, le chanteur du groupe U2, est accusé d'avoir abusé d'une fillette de 10 ans et d'un garçon de 12 ans lors d'une visite philanthropique en Afrique avec Jeffrey Epstein et Bill Clinton en 2002. Cinq jours avant sa mort, le rapport Coolio avait dénoncé la consommation de l'adrénochrome dans l'industrie du divertissement. Cité dans les dossiers, le chef d'orchestre français Frédéric Chalin dénonce des insinuations sur France Musique. Mais d'après le Canard enchaîné, lui et le pianiste Simon Gréchy ont, je cite, « cherché des jeunes et jolies assistantes personnelles pour égayer les séjours d'Epstein dans la capitale française ». Il y a aussi le violoncelle que Jeffrey Epstein a acquis en 2010 et prêté au jeune violoncelliste israélien Yoed Nir, gendre du ministre israélien de la Défense Ehud Barak, plusieurs fois mentionné dans l'affaire Epstein. Sans surprise, le quotidien Libération fait un bilan élogieux de la présidence de Jacques Lang à l'Institut du Monde Arabe. Un soutien indécent mais normal pour le titre qui faisait la promo de la pédophilie. Libération, qui a toujours dénoncé le complotiste, en a fait la promotion... A fait la promotion de la pédocriminalité et est maintenant obligé de relayer le scandale. Des journalistes, une classe politique mouillée jusqu'au cou, leur silence pendant des années est révélateur de leur compromission. Certains artistes échappent à l'emprise. Dans une vidéo, la danseuse Rihanna détaille des rituels sataniques impliquant des enfants. Je vous propose une chanson sur le sujet, Jacques Lang et l'addition Fantôme, par les chanteurs anonymes.
Il arrive au dîner, le costume impeccable. L'ami des artistes s'installe à la table. Il parle de culture, de grands projets d'État et charme la salle avec beaucoup d'éclat. Le serveur s'approche et lui propose un verre. On trinque à son nom dans un joyeux concert. À l'Institut du Monde Arabe, on s'en souvient. 40 000 euros pour des plats libanais. Le traiteur attendait le stylo à la main, mais le chèque n'arrivait jamais. C'était pour la gloire, pour le rayonnement. Payer le houmous, quel étrange tourment. Il dit que l'argent n'est pas son moteur, que seule la beauté fait battre son cœur. Latin, une magie qui frappe au petit matin. On dit non souris et la note se gomme. Voici Jacques Lang et l'addition fantôme. C'est un privilège, un art, un métier de laisser l'ardoise sans la regarder. Jacques Lang et l'addition fantôme. On raconte qu'à Cannes, sur la belle croisette, certains hôteliers font un peu la tête. L'enveloppe offerte est vite dépassée par des frais divers. Un esprit si au loin des transactions. Les mauvaises langues sur la toile s'agitent, disant qu'il confond l'invité et le gîte. Lui répond qu'il n'a pas le goût du profit, que sa vie entière est un don, un défi. Mais pour le caissier qui compte sa soirée, l'amour de l'art a du mal à payer. Fantôme, c'est un privilège, un art, un métier de laisser l'ardoise sans la regarder. Jacques Lang et l'addition fantôme. Entre anecdotes et litiges réels, la légende s'écrit un peu creux.
vivre au-dessus indéfiniment. Les factures s'empilent, le silence s'en répond. C'est la symphonie du non-paiement. C'est le grand mystère du quartier latin. Une magie qui frappe au petit matin. On dit non souris et la note se gomme. Voici Jack Lang et l'addition fantôme. C'est un privilège, un art, un métier de laisser l'ardoise sans la regarder.
Les pratiques révélées par les dossiers Epstein sont celles de l'industrie musicale. Elles reposent sur une technologie sonore aussi efficace qu'ignorée du public qui en est l'enjeu. Une illustration. 60% des moins de 35 ans souffrent d'acouphènes. Cantonnés chez des spécialistes, il y a 30 ans, les audioprothésistes sont aujourd'hui aussi nombreux que les opticiens. Le son artificiel a envahi nos vies. La pollution sonore actuelle qui concerne chacun et pas seulement dans le bruit des rues. Christian Hugonnet, instigateur de la Semaine du son à l'UNESCO, tente de sensibiliser sur les conséquences de la compression sonore. Depuis les années 1980-90, les publicitaires se sont emparés de ce système en écrasant le son pour le faire remonter vers le haut, pour le situer au-dessus du bruit ambiant de la ville. Adopté par les publicitaires, le son compressé a contaminé tous les genres musicaux, posant un problème sanitaire car, dit-il, les cellules à l'intérieur de l'oreille interne ne peuvent plus se reposer ni se régénérer, elles s'atrophient et finissent par exploser. Ainsi, le retour des vinyles s'explique aussi par le retour à un son non compressé qui respecte les nuances de la musique au lieu de faire entendre un mur de basse. Notez bien que toutes ces technologies sonores nuisibles sont efficaces car elles sont anodines, rares sont ceux qui les remarquent. Un autre exemple, par deux ou en vif, d'ailleurs vite fait, disent-ils. Vous l'avez peut-être remarqué, vous pouvez accélérer la vitesse de lecture des vidéos. TF1 signale que de plus en plus de jeunes accélèrent la vitesse des vidéos et des messages vocaux. La tendance qui est en train d'impacter toute la production de vidéos, puisque les producteurs et les ingénieurs du son prennent en compte cet usage dans la conception de leurs clips et des enregistrements. Comme pour la compression, à terme, tout se visionnera et s'écoutera en accéléré, en vif. La plateforme de musique Deezer a pris des mesures contre l'IA. Elle a constaté que 40% de la musique est fabriquée par l'IA. La musique générée par l'IA n'est pas destinée à être écoutée, mais pour générer de fausses écoutes et ainsi générer des revenus. Pour tenter de réguler ce phénomène, la plateforme a annoncé qu'elle a démonétisé 85% des écoutes de morceaux générés par l'IA et monétisé leur détection. C'est passé inaperçu, mais la cathédrale Notre-Dame de Paris est désormais sonorisée comme une salle de concert. La polyphonie est née et a été entendue pendant des siècles dans ce bâtiment conçu avec une architecture capable de transmettre le son naturel. La cathédrale est maintenant complètement envahie par les sons artificiels. Tout est sous contrôle, sauf peut-être l'orgue. Contrôler le son, c'est contrôler la société. Trump a évoqué l'utilisation d'une arme sonique secrète, le Discombobulator, cité, dans l'opération états-unienne d'enlèvement du président Maduro début janvier. Cette arme sonique, aussi appelée à ultrasons ou acoustique, émet des fréquences suraiguës, inaudibles pour l'oreille humaine. Elle peut frapper très durement les tympans, les nerfs, le cerveau, provoquant parfois des vomissements, des évanouissements, etc. Tout cela est connu depuis longtemps. Les États-Unis auraient pu employer cette arme avec des systèmes de guerre électronique capables de griller l'électronique pendant l'opération au Venezuela. Comme illustration, sans lien avec l'actualité, je vous propose une chanson composée pour le menhir.
Il parlait quand personne n'écoutait. Il insistait quand le monde avançait. Dans le confort des certitudes tranquilles, ses avertissements semblaient inutiles. Il disait que les peuples ne sont pas interchangeables, que l'histoire forge des racines durables. Quand tout jurait que les frontières s'effacent, il rappelait leur rôle, leurs traces. Il parlait de mondialisation sans frein, de nations réduites à de simples moyens. On riait, on détournait les yeux, le temps avançait, silencieux. Le menhir, debout dans le vent, pas prophète, mais observant. Il voyait les lignes de fracture bien avant qu'elles deviennent blessures. Le menhir, bloc immobile, à contre-courant d'un monde docile. Vision trop tôt, parole en avance, que l'histoire remette en balance. Il parlait d'insécurité avant les chiffres, quand le mot dérangeait les livres, de tension née de l'aveuglement, d'un déni confortable mais pesant. Il disait que la politique sans peuple devient vite une langue trop simple, que la démocratie sans enracinement se fragilise lentement.
Alors, pour revenir sur l'actualité des fronts, la guerre en Ukraine n'a pas d'affrontement particulier sur ce front. Une opération sur le front sportif seulement, qui constitue un autre repère essentiel pour les populations. La joueuse de tennis ukrainienne, dont le père combat sur le front, a attaqué la numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka. Elle lui reproche sa proximité avec Alexandre Loukachenko, président de la Biélorussie. Avec les JO d'hiver où les joueurs russes sont exclus et seule une vingtaine d'athlètes ont été autorisés à concourir sans hymne ni drapeau. Sur le front palestinien, par contre, reste animé. Pour l'Eurovision, fin janvier, la télévision publique italienne a demandé une représentation palestinienne hors compétition. Israël a sélectionné sa chanson pour le concours. Elle sera interprétée en hébreu, en français et en anglais par le chanteur franco-israélien Noam Betan. Au Sénégal, un collectif de 120 artistes sénégalais ou résidents au Sénégal a lancé un appel public exhortant les autorités à prendre des sanctions contre Israël en réaction à la guerre dans la bande de Gaza. Sur le front des musiques de la dissidence, le dernier concert des Brigandes en 2019 au BBR de Synthèse Nationale a été mis en ligne sur la chaîne YouTube de Synthèse Nationale. Un extrait de leur premier concert est aussi disponible sur la même chaîne. C'était la première prestation au public du groupe qui allait subir plusieurs années de violentes attaques des médias subventionnés. Il ne fait pas bon s'opposer à l'industrie musicale. Début février, le rappeur Cro-Blanc est entré dans la longue liste des dissidents subissant la fermeture arbitraire de leur compte bancaire. Ces fermetures n'ont pas à être justifiées et visent des structures dissidentes. Elles s'inscrivent dans une stratégie pilotée de manière occulte qui traduit un totalitarisme rampant. Quand je parle français, je ne suis pas dans mon pays, confie la réalisatrice bretonne Nicole Le Garec. Dans l'Ouest-France, elle livre un témoignage exceptionnel du temps d'avant la technologie. On peut mesurer le gouffre entre les modes de vie et le prix payé par nos communautés pour en bénéficier. La langue, la chanson, la culture sont les moyens d'harmonisation collectif par les technologies. Ils ont été éliminés ou mis sous contrôle par l'industrie musicale. Ce n'est pas inéluctable, mais l'effort à produire pour revenir au lien antérieur est non négligeable. JSF TV fait une émission sur la mort du chanteur Balavoine qui ne passera pas sur les antennes des télévisions subventionnées. Évidemment, il conteste la version officielle. Je vous propose une chanson dissidente faite par les couteaux de la Berchère et pêchée sur Internet, près des cimes, loin des cons.
Puis l'herbe coupée, puis on entend plein d'oiseaux chanter. Loin des klaxons et des gens dérangés. J'habite en montagne, venez pas faire chier. Si j'habite là, c'est que j'ai fait mon choix d'être près de la nature. Au milieu des bois, dans mon chalet de pierre et de rondin. Loin de la folie des sociaux mondains. Près des marmottes, loin des blaireaux, j'garde mon cœur près du fourneau. Près des cimes et loin des cons, savoyard par définition. La Haute-Savoie, c'est mon pays, une terre sacrée de montagnes et de chablis. Des hommes solides et introvertis, chez nous on cause peu, mais tout est dit. Montagne de granit et de sommet épique, des rocs, de la glace et du génépi. Façonne les hommes en guerrier mystique, toute façon tu vas mourir si t'es pas d'ici. Près des marmottes, loin des blaireaux, je garde mon cœur près du fourneau. Près des cimes et loin des cons, savoyard par définition. J'en pouvais plus de la vallée, trop de gens trop pollués, fuir la folie sans regretter. Sur mon rocher, ces gens sans âme sont accrochés à une vitrice pour la sécurité. Ils ont perdu leur cœur pour l'obscurité. Dans l'ombre sombre de mes sommets, près des marmottes, loin des blaireaux, je garde mon cœur près du fourneau. Près des cimes et loin des cons, savoyard par définition. Le soir, je m'assois dans l'herbe et je regarde les lumières en bas s'allumer. Déjà devant moi, les couleurs se révèlent, du soleil en train de se coucher. Pour rien au monde, je laisserai ça et toute ma vie, je le protégerai. Pour que mes enfants un jour voient ça et ainsi vivent dans un monde parfait.
Près des marmottes, loin des blaireaux, je garde mon cœur près du fourneau. Près des cimes et loin des cons, savoyard par définition.
Je sais que c'est ici que je mourrai, dans mes montagnes aux formes abstraites. Laissez mon âme courir. Mais faire partie des glaciers et des tempêtes de neige.
Près des marmottes, loin des blaireaux, je garde mon cœur près du fourneau. Près des cimes et loin des cons, savoyard par définition.
Sur le front des rave-parties, le 23 janvier, le préfet de la Seine-Maritime interdisait toute rave-partie dans le département. La circulation de tout véhicule transportant du matériel de sonorisation et d'amplification ou des gros groupes électrogènes était interdite. Il est donc possible de prendre des mesures. Le problème est qu'elles soient respectées. Au Mans, des centaines de teufeurs se sont rassemblés dans des entrepôts désaffectés, alors que la rave party avait aussi été interdite. Un arrêté préfectoral et un important dispositif de gendarmerie pour ne pas empêcher les ravages des raveurs. Le JDD annonce que le rappeur Medine a été approché par LFI pour devenir tête de liste au Havre. Encore une illustration du rôle de la musique et de l'erreur politique d'ignorer le front musical. Je ne dis pas que la musique remplace un programme politique, mais que la musique mobilise les masses, spécialement les jeunes. L'hégémonie culturelle de la gauche maintient les populations et donc les électeurs sous emprise. Ceux qui abandonnent ce terrain peuvent gagner les élections, mais ne gagnent pas les esprits. Ne m'énervez pas, déclare le rappeur Gims dans Le Figaro, assurant pouvoir remplir 10 stades de France. La jauge du Stade de France est de 80 000. Cela donne une idée de l'audience du rap et de son impact sur la population de l'Hexagone. Le titre Télérama est incroyablement révélateur. La Star Academy est une arme de production massive pour l'industrie musicale. Textuel. Gagnants et perdants ressortent de l'émission avec un album et une visibilité colossale. La promotion des artistes est une production industrielle. Ceux qui acceptent les conditions ont le droit de bénéficier de la promotion, donc d'exister. Ainsi, à seulement 18 ans, Ambre remporte largement la Star Academy, 2025, l'industrie musicale a sélectionné une nouvelle recrue. Reste à savoir si elle respectera le programme qui lui est imposé. Je suis contre. Pascal Obispo explique pourquoi il ne viendra plus aux Victoires de la musique, qualifiant l'émission de show télévisé parfois biaisé. Théodora, égérie de la gauche culturelle, a été sacrée nouvelle reine des Victoires de la musique. Le magazine Marianne titre sur « La défaite de la musique » et jure que c'est une imposture intellectuelle. En concluant, « Libérale jusqu'au bout des faux ongles, l'égérie de la gauche culturelle accorde une place totalement démesurée au fric dans ses textes sous trois modalités. Dire qu'on en a manqué, dire qu'on en a beaucoup, demander à un bad boy de payer. » Marianne est un titre encore capable d'apprécier à sa juste valeur les produits de l'industrie musicale. La question est aussi de savoir quelle scène alternative proposer, quel courant politique est actuellement capable de soutenir des artistes dissidents. La Turquie annule deux concerts de métal accusés de satanisme. Les groupes Slaughter to Prevail, russo-états-unien, et Behemoth, polonais, sont donc interdits en raison de leur incompatibilité avec nos valeurs sociétales. Manifestement, la Turquie est contre la mondialisation musicale. Aux États-Unis, le front musical est très actif et passe pour le plus grand événement sportif, le Super Bowl. Donald Trump a jugé totalement ridicule le choix de Green Day et Bad Bunny pour la grande soirée de football américaine et n'a pas assisté au match. Le président des États-Unis ne fait pas la loi au Super Bowl. Kanye West s'excuse pour ses propos antisémites et met en avant ses troubles mentaux. Il avait interprété une chanson à la gloire d'Adolf Hitler. Dans une publicité achetée sur les colonnes du Wall Street Journal, le rappeur américain se défend d'être nazi et dit « aimer le peuple juif ». Pour terminer, vendredi 10 février, un islamiste a attaqué des militaires pendant une cérémonie à l'Arc de Triomphe. Même les gendarmes ne sont pas en sécurité sous l'arc. Lieu du cérémonial officiel quotidien du ravivage de la flamme du soldat inconnu, avec sonnerie clairon et roulement de tambour. Je vous propose d'entendre une chanson de Synthwave, « Ma belle cathédrale ».
Cathédrale, vaisseau amiral, elle trônait plus haut que les coteaux de la ville. Du temps où Liège brillait, elle semblait éternelle. Notre-Dame et Saint-Lambert, joyaux gothiques, mosan, beauté divine, immense alora qui traverse le temps. Avec ses deux chœurs, ses deux transepts, ses trois nefs, son chapelet de chapelle et son cloître, elle guidait les âmes, veillait sur la ville, la plaçait sous bonne protection. Elle connut Charlemagne, les croisades, les guerres de Bourgogne, mais vint le temps de la Révolution.
Où es-tu aujourd'hui, ma belle cathédrale? Qu'ont-ils fait de toi, ô vaisseau amiral? Quelle est cette place vide qui me fait mal? Quelle est cette haine qui tue des cathédrales?
Fierté de la principauté, trésor des princes évêques, mille ans a régné plus haut que la brume et les hommes. Elle fut vendue, démolie, pierre par pierre, effacée de l'histoire. La cathédrale devint carrière, quel destin amer.
Où es-tu aujourd'hui, ma belle cathédrale? Qu'ont-ils fait de toi, ô vaisseau amiral? Quelle est cette place vide qui me fait mal? Quelle est cette haine qui tue des cathédrales?
Toi le passant qui traverse la place Saint-Lambert, souviens-toi de cette histoire et crois et prie à l'endroit où Lambert est tombé. Et un jour nous rebâtirons notre cathédrale.
Où es-tu aujourd'hui, ma belle cathédrale? Qu'ont-ils fait de toi, ô vaisseau amiral?
Quelle est cette place vide qui me fait mal? Quelle est cette haine qui tue des cathédrales? Où es-tu aujourd'hui, ma belle cathédrale? Qu'ont-ils fait de toi, ô vaisseau amiral? Quelle est cette place vide qui me fait mal? Quelle est cette haine qui tue des cathédrales?
Bonjour Frigide Barjot.
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour présenter la politique musicale de la Manif pour tous.
Enfin, c'est un grand terme quand même.
Oui, mais...
Nous ne sommes pas dans la politique, nous, monsieur, nous sommes dans la citoyenneté.
Les choix musicaux, alors, la ligue musicale...
On va plutôt dire, oui, la stratégie de parodie musicale
voilà.
qui a été celle des manifs.
Vous avez été une organisatrice de ce grand mouvement d'opposition à la légalisation du mariage homosexuel.
On peut dire comme ça, mais je n'étais pas vraiment organisatrice, j'étais plutôt animatrice.
Animatrice, voilà.
L'organisation, il faut vraiment rendre à César ce qui est à César. L'organisation, c'était sous l'égide de Ludovine de la Rochère et avec Albéric Dumont, et notamment pour toute la partie scénographique, c'était Émile Duport. Très important de dire vraiment qui était aux différentes fonctions. Même si, sur le fond, nous travaillons ensemble sur les argumentaires, les slogans, etc., de ce que nous allions produire. Voilà.
Oui, ils étaient en phase avec... Votre vision musicale de l'animation.
C'est tellement vrai que le terme « Manif pour tous » est une parodie de « Mariage pour tous ». Et ça n'est, là aussi, je rends à César, moi-même venant avec cet esprit de parodie, de distorsion pour voler à l'ennemi LGBT les codes et les musiques aussi, on verra ça tout à l'heure. C'est Ludovine qui a eu l'idée, vous savez, vraiment c'est un truc de création, de passer de Mariage pour tous à Manif pour tous. On cherchait désespérément un nom pour la première manif du 17 novembre, et c'est elle qui a dit à un moment, si on disait la Manif pour tous. Et tout le monde a fait, waouh, super, et moi la première.
Oui, ça ne veut rien dire, mais...
Ah,
ça
si.
Parle. Oui, bien sûr.
C'est le détournement de mariage. Ouais. On va en faire le contre-mariage qui est la manif. C'était vraiment très bien pensé. Comme Brigitte Bardot a vu naître Frigide Barjot, par exemple.
Voilà. C'est un détournement. Et vous êtes... c'est un peu votre tourneur d'esprit à vous depuis longtemps, depuis que vous avez... rejoint le groupe Jalon
d'intervention culturelle Jalon et surtout Basile de Coq que je salue ici et qui est en même temps devenu mon époux.
Votre époux.
C'est-à-dire que en fait, pour faire court, j'ai toujours été motivé par l'engagement politique, la défense des valeurs qui sont les nôtres, chrétiennes. Je dis ici à Radio Courtoisie évidemment, chrétiennes, nationales, etc. Mais je voulais m'y intéresser après avoir fait des études, donc sciences politiques, du droit, enfin avoir un bagage qui permette d'œuvrer efficacement et d'aller vers un mouvement qui était à l'époque le mouvement gaulliste venant c'était à peu près ce qui existait de plus cohérent en termes national sur le marché dans les années 80. Bien. Et puis assez vite, et après Sciences Po, et après 5 années au service du RPR, au moment de Maastricht, j'ai dit « c'est plus possible, ils nous ont trahis ». Et entre-temps, j'avais rencontré à Sciences Po des tas de jeunes qui étaient à Jalon, qui avaient tous des pseudos, et c'est comme ça que je suis rentré petit à petit. Mon entrée à Jalon s'est faite dans le groupe musical de Jalon, qui est lui-même une parodie musicale des Dead Kennedys, puisque ce sont les Dead Pompidou, dont nous reparlerons et que j'ai importé jusqu'à la Manif pour tous, puisque nous avons pu chanter devant 1 million de personnes, faire aussi bien que Johnny Hallyday.
Au Champ de Mars.
Au Champ de Mars, en chantant nos chansons parodiques, mais qui déjà avaient du sens à l'époque.
On en écoute une ?
Alors, on en écoute une, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est l'enregistrement original du 13 janvier ? Est-ce que c'est cela ? Ou est-ce que vous avez...
C'est La Matraque.
Ah, La Matraque. Alors, La Matraque, je l'ai chantée sur scène, mais là, ce n'est pas la version sur scène. C'est une version piano-voix que j'ai chantée récemment pour les 100 ans de Tante Arlette, la marraine de Basile de Coq.
Ah, c'est beau. Et la Matraque, c'est une parodie de...
De La Matraque, bien évidemment. C'est une chanson à la gloire des animaux, qui sont heureusement défendues par Brigitte Bardot. Mais moi, j'ai préféré défendre les bébés d'hommes plutôt que les bébés phoques.
Voilà, on écoute La Matraque. Vous êtes une personnalité des nuits parisiennes, des médias et familière des appareils politiques.
Oui, enfin, j'étais.
J'étais.
Là, nous sommes en 2026, cher. Ça, c'était avant 2012, avant la manif pour tous. Puisque ouais, ce grand mouvement a eu aussi comme conséquence que je disparaisse des grands médias, des grands appareils politiques et d'à peu près tout. Compte tenu du succès que nous avons eu à l'époque, il ne fallait pas que ce succès perdure, voyez-vous.
C'est ça, la relégation, l'occultation, c'est la sanction, et ça c'est immédiat.
C'est la sanction politique, oui. Ah oui. On nous a confisqué notre appartement, plus d'accès aux médias, sauf ici, bien sûr, je remercie encore Radio Courtoisie, et vous-même, cher Thierry, mais pour le reste, non, c'est la fin d'une carrière publique.
C'est ça. Il y a une...
Mais le combat est à ce prix.
Oui, bien sûr. Il y a une censure, il y a une volonté, il y a un combat politique, un combat culturel, et c'est une guerre ouverte de tous les jours. Ou on fait allégeance, ou on s'oppose à leur système, il n'y a pas d'autre...
Et vous disparaissez. Ah ouais. Parce qu'il ne faut surtout pas rentrer dans la pyramide du
pouvoir. Enfin,
vous ne pouvez pas monter dans la pyramide du pouvoir. Je vous entendais parler d'Epstein et de toute la super élite, mais évidemment pour en faire partie, ou de tout le personnel musical actuel, évidemment qu'il faut faire allégeance en termes d'idéologie, en termes de valeurs. Vous n'avez pas véritablement de contrepartie grand public, on va dire, qui aurait accès aux grandes chaînes comme TF1, comme la Starac, s'ils étaient dissidents idéologiquement, intellectuellement. Ça n'existe pas. Même Vianney, qui soi-disant est catholique, enfin soi-disant non, il l'est sûrement d'ailleurs, je ne veux pas l'accuser, mais sur le reste, il ne va pas défendre son catholicisme à l'antenne pour gagner des millions sur TF1.
C'est clair, il serait immédiatement
expulsé.
Éliminé. Ouais.
Mais oui, on a vu plein d'artistes se faire éliminer de cette façon. Donc je prétends que l'immense succès des manifs a fait que, et surtout la ligne que je défendais, a fait que je me suis... qui est la défense de la vie humaine, quelle que soit l'organisation sociale autour, et vraiment la résistance contre le remplacement technologique et financier, eh bien, ceci n'a pas voix au chapitre aujourd'hui. Voilà. Mais en revanche, on peut continuer à chanter. comme nous l'avons fait dans les manifs.
C'est ça, on peut continuer à chanter sur le front dissident et dans les médias dissidents, mais on n'aura jamais aucune audience. Dans les gros médias subventionnés, là, ils ne voudront jamais nous.
Oui, et même dans les partis qui sont en phase de prendre le pouvoir. Moi, je vois le changement d'attitude, par exemple, chez Bolloré ou même au Rassemblement National. On a beaucoup moins de facilité d'expression qu'avant. Mais oui. Il faut dire que leur programme a changé aussi.
Oui, là aussi, il y a une ligne à respecter et une censure.
Quand vous approchez du pouvoir, si demain le RN arrive au pouvoir, eh bien vous verrez que le programme ne sera... Enfin, d'ailleurs, il a déjà changé le programme, c'est plus du tout le même. Donc, on comprend que pour accéder au pouvoir mondialisé, il faut laisser ces idéaux au panier.
Il faut accepter les lignes qui sont imposées
du marché mondialisé.
C'est ça. C'est
avec les dirigeants du marché mondialisé.
Et avec les musiques mondialisées, sinon,
le
pas.
Fameux rap et le Bad Bunny dont vous nous parliez, doit être LGBTQIAZP+,
c'est ça,
P
c'est
pour
ça.
Pédophile.
C'est ça.
Alors, je pense qu'il l'est lui-même, mais je dis que maintenant dans LGBTQIAZ, c'est zoophile, et puis P, pédophile, depuis l'avènement de la Epstein Mania.
Oui, c'est ça. On voit leur pratique qui restait dénoncée par les complotistes et que les gros médias refusaient d'intégrer, et que maintenant ils sont obligés de reconnaître comme étant une réalité.
Non, pas tout. Mais le fond de la cuve dégoûtante remonte de plus en plus. Mais... Puisque j'ai vu, peut-être qu'on dévie un peu trop, mais j'ai vu en tout cas sur France 24 parler d'adrénochrome. Pour évidemment le dénoncer. Ouais. Mais avant, jamais on n'aurait
C'était un terme, oui.
Parler d'enfants mangés, de cœurs mangés.
Ouais. Ah non, mais c'est horrible.
Mais oui, c'est horrible.
Je l'ai évoqué tout à l'heure, des chanteurs, des chanteuses, des artistes l'évoquent maintenant, le disent.
L'évoquent. Il y a ceux qui ont dénoncé, comme Jim Caviezel, déjà il y a longtemps, mais par ailleurs, ceux qui pratiquent. Ceux-là, ce sont ceux qui sont le plus haut placés.
Lady Gaga, il suffit de regarder ses spectacles pour qu'on voit. Ce sont des cérémoniels ouvertement sataniques. Quoi.
Et la grande... celle qui a chanté au JO, en haut de la Tour Eiffel, notre amie canadienne...
Céline Dion,
son fameux clip... pour la ligne de vêtements non genrée, enfin soi-disant non genrée, en noir et blanc, c'est horrible, avec des enfants kidnappés dans des tunnels, dans l'hôpital et tout. Vous aviez vu ça?
C'est monstrueux.
Quand vous essayez d'expliquer que c'est une symbolique, parce que c'est ce qu'il disait sur France 24, mais c'est de l'art, c'est du symbole, les bébés coupés dans des lavabos, c'est du symbole.
C'est pas vrai, ouais.
Mais c'est incroyable, continuer à nous expliquer que c'est que une espèce de d'onirisme ou de truc, mais non, en fait, c'est là où ils nous mentent tous. Bon, bref, continuons sur la manif pour tous. Nous, nous n'en étions pas là, nos enfants étaient dans des poussettes et ils étaient très heureux. Et gazés par Manuel Valls, le grand ami de Ariane de Rothschild.
Et vous pouvez nous expliquer comment vous avez pu exploiter l'humour dans ce combat de société et faire accepter cette ligne à des organisations catholiques, partenaires conservatrice, pas forcément réputée sur ce terrain humoristique.
Alors d'abord, ça, je dois dire que c'est pas tout à fait vrai. Il y a plein de gens très rigolos et qui ont de l'humour, et notamment, puisque c'est la grande ordonnatrice de tout ça, on va pas se le cacher, c'était l'Église catholique, eh bien, il y a des prêtres, il y a des gens dans le clergé qui ont beaucoup d'humour et que Brigitte Bardot amusait beaucoup. Surtout depuis ma conversion, surtout. J'aurais pas été convertie, c'était pas la même histoire.
C'était plus difficile.
Voilà. Et en fait, tout le monde a vu, et notamment, je me souviens avoir été félicité par le cardinal Barbarin, qui trouvaient ça génial, cette ligne au deuxième degré, etc. Bon, voilà. Ça, c'était dans le premier temps, mais il fallait bien rassembler largement. Or, l'humour est un très grand fédérateur. Vous connaissez évidemment cette maxime que quand on fait rire une femme, elle est déjà à moitié séduite.
C'est ça.
Pour pas dire plus.
C'est ça.
Là, il fallait séduire les hommes et les femmes et leurs enfants, et même les hommes et les femmes homosexuels, et qui ont aussi une certaine pratique du décalage, de la dérision, même sur eux-mêmes. Et c'est un peu cela que nous avons voulu, enfin que moi j'ai souhaité, intégrer dans la communication de notre rassemblement, puisque le but était de réintégrer les personnes homosexuelles dans l'ordre sexué hommes et femmes. Et je disais, il y a des couples d'hommes, il y a des couples de femmes, et il y a évidemment, qui font 5% de la population à peu près, et 95% de couples hétérosexués, hommes et femmes. Eh bien, ces couples d'hommes et ces couples de femmes, et je l'avais bien précisé aux organisateurs et aux clergés, doivent non pas être intégrés dans le mariage procréatif, mais avoir une union qui ne changera ni la filiation, ni le mariage, ni la procréation dans le mariage, puisque le mariage, c'est la préservation de la pérennité de l'humanité à travers sa reproduction. Et tout ça était très joyeusement accueilli. J'ai dit donc, on va prendre leur code de communication LGBT, la fête, la musique, les couleurs. Nous, on va en garder deux, le bleu et le rose.
Le bleu et le rose, pour bleu rester, clair et rose, oui.
Voilà, pour rester dans l'homme et la femme. Et puis, on mettra le rose des gays, le pink. Vous saviez, il y avait une télévision qui s'appelait Pink Télé à l'époque. Et comme ça, je disais aux garçons, aux messieurs conservateurs catholiques, d'un peu apprendre à se décoiffer, de se faire pousser la barbe, de ranger leur chevalière en la tournant comme ça, et, de s'ébouriffer un petit peu et de mettre un polo Manif pour tous rose. Et ça a fonctionné très bien. Et les dames qui se faisaient agresser par les fémènes, je leur disais, eh bien mesdames, quand les fémènes arriveront seins nus, faites un effort vous aussi, ouvrez vos chemisiers et montrez-leur vos seins pour parler à égalité et commencer le dialogue.
Je ne suis pas sûr que les pratiquer.
Non, on ne les a pas pratiquées parce que finalement, elles ne sont jamais venues chez nous. Ah, ouais. Vous savez, elles allaient de l'autre côté chez Civitas pour faire semblant de se faire massacrer.
Je vous propose d'écouter l'hymne de la Manif pour tous.
Qui est une parodie de « Non, rien de rien, je ne regrette rien ».
La chanson d'Édith Piaf.
D'Édith Piaf.
Ça va rappeler des bons souvenirs
Alors, c'est pas moi qui ai écrit les paroles, mais normalement, il y a Émile Duport qui est dans l'affaire, et puis d'autres personnes. Et vous savez, tout ça, c'était issu de gens qui chantent dans les chorales d'habitude. Enfin, là, ça se voit un peu. Mais quand c'était chanté dans les manifs, c'était un peu plus punchy quand même. Voilà. Et l'idée, donc, là, ils avaient repris celle-là, mais moi, ce que je trouvais intéressant, encore une fois, c'était de faire un décalage, une réappropriation des codes LGBT. Et c'est pour cela, ça a été un peu plus tard dans les manifs, après le 24 mars, j'avais proposé de reprendre même le drapeau LGBT. Qu'on se le réapproprie, et j'avais fait floquer dessus le fameux logo LM, la manif pour tous, de l'homme et de la femme avec les enfants, que moi j'aurais bien aimé entre l'homme et la femme, et on floquait, et on avait...
Sur le drapeau arc-en-ciel.
Voilà, on avait mis l'homme, la femme et les enfants sur le drapeau arc-en-ciel. Et si les enfants étaient au milieu, l'homme et la femme, bon, ils pouvaient avec leurs petites mains tenir un deuxième homme ou une deuxième femme. Bah oui, puisque notre but, c'était de dire ils vivent ensemble et s'ils veulent un enfant, puisqu'en fait, le but, c'était de changer la procréation. Hein, vous avez bien saisi que c'était un leurre de dire homosexualité. Ouais. C'était pour passer à la fécondation à l'IA, la fécondation artificielle. Hein. Eh bien, moi, je me permettais de dire... À ce moment-là, le couple de même sexe qui veut des enfants, il ne le fera pas dans un laboratoire avec des semences anonymes et un ventre acheté, mais avec la camarade ou l'ami ou la marraine biologique qui sera la vraie mère de l'enfant. Ce que beaucoup de gens, ce qu'on appelle la coparentalité, ce que beaucoup de gens trouvaient le... Ils me disaient toujours, oui, finalement, c'est le moindre mal. Bah, c'est plus que le moindre mal. Ça maintient l'humanité dans son ordre biologique, homme, femme, enfant. Voilà. Et donc, outre le drapeau, on avait eu l'idée de reprendre un hymne...
De détourner...
Détourner un peu, mais comme a fait Donald Trump lui-même, de détourner une chanson de Village People qui est vraiment... le groupe entièrement construit de toutes pièces, hein, d'ailleurs. Hein, vous savez, alors là, pour le coup, dans la production musicale industrielle, c'était quand même très bien fait.
Belle construction.
Belle construction. Et donc, de reprendre une chanson qui s'appelait « Go West » et d'en faire
un détournement
et vraiment une chanson pour les militants. Donc, je vous propose d'écouter... de se rappeler ce qu'était Go West et puis tout de suite après d'entendre les militants. Bon là, ils ont pas toute la musique derrière, ils chantent dans la rue, hein.
C'est ça.
Allez, à la bonne franquette. Alors voilà, hein, c'était pas mal. Et ça, je peux vous dire que ça boostait les troupes. Parce qu'en fait, quel est l'objectif de tout ça, de mettre ces musiques avec des camions qui crachent, etc. Eh bien, évidemment, c'est de mobiliser la jeunesse. Ce qui a énormément étonné quand on a vu la foule dans les manifs, on pensait qu'il n'y aurait que des vieux conservateurs, barbons, machin. Et pas du tout, il y avait plein de jeunes. Et ça, c'était le but de reprendre les chansons de rock, les chansons actuelles, etc. Soit dans des tournées, soit de les mettre en fond musical pendant. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup marché quand même. On a fait kilomètres et des kilomètres.
Ah, sillonné Paris, ouais.
Et sur deux, trois, couloirs, enfin défilés. Hein. Vous savez, quand on arrivait et qu'on on convergeait vers le Champ de Mars ou bien vers les Invalides, il y avait plein de cortèges différents. Donc, il fallait vraiment motiver. Et puis, une fois qu'on arrivait comme au Champ de Mars, eh bien, on pouvait continuer à écouter de la musique. Et j'ai même eu l'autorisation donc, de chanter avec notre groupe parodique des Dead Pompidou de Frigide Barjot sur le podium, avec plein de jeunes autour qui chantaient,
oui,
qui dansaient.
On s'en souvient, ça, ouais.
Hein, il pleuvait des cordes et on est en plein mois de janvier. Et ben, il y avait une ambiance géniale. J'ai même pu leur faire faire une chaîne d'amour de 1 million de personnes. Voilà. Alors, je crois qu'on a retrouvé. Alors, le son n'est pas très bon, mais je chante Ah, dites-moi s'il y a une vie avant la mort, en reprenant Rock'n'Roll and Music de Chuck Berry.
Oh, excellent. Alors, on écoute.
Donc ça, je crois que c'est ma plus grande scène, vous voyez.
Ah bah ça, c'est extraordinaire quand même.
Mais Thierry, n'en profitez pas pour me dire que je n'ai fait les manifs que pour monter sur scène, chanter avec les Dead Pompidou. Et d'ailleurs, j'ai été très surprise parce que moi, je pensais que les musiciens qui sont des musiciens de rock et tout ça, même s'ils sont rigolos, ils n'accepteraient pas de venir dans une manif réac d'extrémistes de droite homophobes. Et en fait, ils étaient là. Tous. Mais, il n'y en a pas un qui est sorti.
À partir du moment où il y a du public, ils en ont un peu rien à foutre. Pas tous qui sont vraiment très politisés, mais sinon
Non, ils n'avaient pas rien à foutre.
Les artistes, ils sont contents d'avoir du public qui apprécie leurs prestations.
Oui, mais le public ne venait pas pour ce type de prestations. Mais je tiens à dire quand même que j'étais très surprise et contente que notre pianiste, qui par ailleurs, dans la vraie vie, travaille au Banana Café. Hein,
je ne connais pas le Banana.
Ah bah c'était le repère gay
du
Marais, enfin pas du Marais, des Halles, et donc
c'est
de
rigolo,
Tony
ouais.
Gomez. Eh bien, quand je lui ai dit tu vas pas être content, mais est-ce que tu viendrais quand même, il m'a dit mais moi je suis entièrement d'accord avec ton combat. C'était il y a 13 ans. Hein,
c'est extraordinaire quand
même. C'est fou, ouais. Hein, le pianiste, mon ami Nico Chichon. Ouais. Mais bon, bref, voilà, pour vous dire que ça a été effectivement ce moment assez impressionnant où les dames de paroissiennes et les messieurs...
Oui, s'il n'y avait pas ce carcan médiatique, il y aurait des passerelles et des ouvertures
mais
beaucoup
bien
plus
bien sûr, mais il ne faut surtout
effectives.
Pas qu'il y ait de passerelles et d'ouvertures, on ne garde pas le pouvoir.
Alors pour finir,
je veux quand même dire deux choses sur Jalon et sa participation, donc Jalon, Basile de Coq, sa participation au manif, c'est que nous avons poussé la parodie de la parodie jusqu'à parodier dans la manif pour tous, le mariage pour tous, avec le mariage pour personne. Et Basile est venu déplier des banderoles le long du cortège qui partait d'Enfer Rochereau, avec une grande banderole, le mariage pour personne, et en expliquant que le mariage, c'était pour les cons, et que, monsieur le maire, si tu savais, tes dragées, où on se les met. Voilà. Alors, on n'a pas tout le temps... Là, j'ai pas beaucoup de musique là-dessus, mais je peux vous dire qu'il y a des gens que vous connaissez
tellement...
bien qui tenaient les
Ça a été
les
tellement apprécié que ça a été dénoncé que la police est intervenue.
Exactement,
est intervenue. Qu'ils n'avaient pas saisi.
Exactement, et les gens de la vraie manif, et ben, ils disaient « Je suis le mari de Frigide Barjot ». Et les flics disaient « Oui, c'est ça, montrez-moi votre carte d'identité ». Enfin bon, bref, voilà, c'était très rigolo.
Des limites de la parodie. Alors...
Et il criait aussi « Frigide, reviens, tout est pardonné ». Voilà, pendant que moi, j'étais sur les chars en tête.
Et donc c'est vous qui l'interprétez.
Et donc moi, je termine là pour vous dire que en fait, nous avions vu juste depuis très longtemps, et dans ces chansons parodiques, je ne pensais pas voir si justement pour... parodier le mariage homosexuel et le transgenrisme et la libération sexuelle et les femmes qui prennent le pouvoir, puisque déjà en 89, j'avais, en 1989, pas 1700, hein, mais j'avais écrit une chanson à la gloire de Brigitte Bardot, mais parodiant Harley Davidson, qui est « Je n'ai plus besoin des hommes ». J'ai retrouvé Simone.
Allez-y.
Et nous allons finir donc avec ce petit capella.
Merci, parce que... merci Frigide.
Et merci à vous de m'avoir fait venir. Donc cela fait ainsi. Je n'ai plus besoin des hommes, j'ai retrouvé Simone. Mon. Aucun homme ne m'impressionne, mon corps est autonome. Nom. Je brûle mon soutien-gorge. Cette libération dont je me rengorge a stérilisé le père et masculé la mère. Je n'ai plus besoin des hommes, j'ai retrouvé Simone, etc.
Magnifique, merci Frigide, et pour cette prestation en direct.
En enregistré, mais en live.
Enregistré en live, en vivant. Ça, c'est...
En très acoustique.
Merci beaucoup.
Dans le nouveau studio de Radio Courtoisie.
Voilà, on est dans le nouveau studio. Le premier enregistrement dans le nouveau studio. Merci, Frigide.
Ça va porter chance à la...
Bonne continuation. À bientôt.
Merci.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Bonjour Paul-Louis Beaujour, vous avez écrit un roman policier dont les skins parisiens sont les héros.
Exact.
Dans les années...
C'est exact.
Ah, c'est exact, ouais. Dans les années de 80-90, ce courant musical tranchait avec la musique d'origine anglo-saxonne. Il avait même opéré une rupture qui faisait sa spécificité et semble expliquer l'intérêt du romancier que vous êtes. Vous pouvez nous donner le contexte de l'apparition des skinheads?
Oui, je peux faire ça. En fait, il y a quatre dates à retenir sur la mouvance skinhead. En fait, d'abord 1966-67, où ils apparaissent en fonction avec les hooligans, en fait, au niveau des stades de foot et plutôt à l'extérieur des stades de foot, hein, pour se friter avec les bandes adverses de supporters. Donc, ils ont surtout commencé comme ça. Musicalement, ils n'étaient pas grand-chose à l'époque. Ils écoutaient du ska. Bon, j'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais enfin bon. Ensuite, on a 76 avec l'apparition du punk et d'un sous-genre du punk qui s'appelle le oi et qui est dont les thèmes sont plutôt les thèmes récurrents des jeunes de l'époque, c'est-à-dire la bière, le foot, la baston, le chômage. Le gouvernement Thatcher, des choses comme ça, enfin, disons socialement conscients. Et ensuite, Afrique de Hoy a attiré les skinheads qui eux-mêmes ont fait des groupes Hoy qui étaient peu, disons, politiquement encore à droite. Hein. Ils étaient, bon, ils étaient tous patriotes, mais pas tous d'ailleurs, et en même temps, ils n'étaient pas vraiment complètement radicalisés. Et puis en 83 est arrivé White Power, le morceau culte de Screwdriver, animé par Ian Stewart.
Alors c'est un groupe spécifique. Là. C'est un groupe.
Ah qui... oui, Screwdriver, c'est le groupe emblématique du skin nationaliste, du White Power, ce qu'on appelle le White Power skinhead, parce qu'il a, avec ce morceau, il a complètement ouvert la voie à tous les groupes nationalistes, anticommunistes. On a commencé à aborder des sujets vraiment, disons, controversés, comme on dit maintenant. Avant, c'était encore très, très simpliste. Et donc, White Power, c'est un morceau qui a vraiment complètement, je dirais, changé les choses. Hein. En 83, à partir de ça, bon, bah, c'est devenu ce que c'est. Hein. Donc, je pense que ce qui sera intéressant, c'est qu'on écoute le morceau.
Eh ben, on l'écoute. On écoute White Power par Screwdriver.
White Power, 1, 2, 3, 4! Last time I watched my country going down the drain. We are all at fault now. We are all to blame. We're letting them take over. We just let them come. Once we had an empire, and now we've got a slum. Wipe out!
Donc après, le mouvement s'étend dans toute l'Europe. Les groupes français qui sont revendiqués de ce mouvement sont quand même nombreux et ont été tout de suite marginalisés par les distributeurs. Quels sont les groupes français qui l'ont revendiqué et quelles sont leurs connexions avec la politique, Paul-Louis Beaujour ?
Les plus connus sont Bunker 84, les Evil Skins, Contingent 88, Brutal Combat et Légion 88, évidemment. Alors, ils étaient tous politisés, ceux-là sont politisés puisqu'ils font partie de ce qu'on appelle le RAC. Donc, on n'en a pas parlé, mais le RAC, c'est le rock anticommuniste, qui n'a pas été inventé par Screwdriver, hein, mais qui en a été, disons, le groupe emblématique. Et donc, on peut dire bon, que Bunker 88, Légion 88 étaient assimilés au PNFE, de Parti Nationaliste Français Européen de Cornillot. Bon, ça, c'est certain. Infanterie Sauvage également, j'ai oublié de citer, avait leur chanteur du FN, d'œuvre française. Et d'autres n'étaient pas vraiment encartés, mais bon, ils étaient tous, il y avait beaucoup d'électrons libres, parce qu'il n'y avait pas de mouvement skinhead, coordonné. Il n'y avait pas un mouvement skinhead. Hein. Bon, le Maya Maliarakis a essayé dans les années 84, 5, 6, avec Troisième Voie, le MNR, de coordonner tout ça, mais il n'y est pas arrivé parce que ce sont tous des individualistes virulents.
C'est ça, la politique, la musique ne s'embrigade pas, quoi. Il faut qu'ils gardent leur autonomie.
Ah oui, puis eux, ils s'embrigadent comme en Angleterre.
Ils s'engagent.
Oui, en Angleterre, ils étaient plus coordonnés dans deux groupes qui étaient le National Front et le British Movement de Colin Jordan. Et eux étaient vraiment... Beaucoup, la plupart des groupes de rock anglais étaient pratiquement tous encartés dans un de ces deux groupes-là, politiques. Tandis qu'en France, je pense que c'était quand même beaucoup plus disséminé. Sans pour autant qu'ils étaient, mais ils avaient une conscience politique, je pense tous. Ça, ah bah, ça n'y a aucun doute.
Affiché, mais on l'entend dans les paroles. Bah, on va écouter une chanson de Légion 88, PNFE.
Ouais. Ouais.
Qui a été faite directement. C'est un outil de propagande, en quelque sorte. C'est comme ça qu'ils l'ont conçu.
Oui, c'est le slogan, quoi. Ouais. C'est le slogan. Oui, complètement. Oui, complètement.
On y va, alors on écoute PNFE.
Une
Oui, Paul-Louis, c'est un tract musical en quelque sorte. Votre roman fourmille de références viticoles traduisant une inclination pour certains produits, les whisky, les vins de Bourgogne. C'est une proximité personnelle, c'est vos choix, c'est vos goûts.
Le problème, c'était le hussard. Je ne voyais pas tellement le hussard et boire du lait fraise ou du thé vert. Vous voyez, ou de la bière sans alcool, c'est pas trop le personnage.
Dans le contexte, ça aurait un peu, ouais, ça aurait juré, ouais.
Oui, un peu. Donc je voyais plutôt boire des choses un peu fortes. Donc le bourbon, ça me paraît bien. La bière, bah parce que il y a quand même, on parle beaucoup de Léon, le grand Léon, hein, évidemment, dans le roman. Donc la bière et le Léon. Et puis l'Irancy, le Chablis, parce qu'il y a quand même plusieurs femmes dans mon roman et elles. Toutes celles que je connais apprécient bien le vin blanc, le Chablis. Bon, j'aurais pu mettre également le champagne, hein, mais bon, on ne peut pas tout mettre non plus.
C'est plus
bon,
loin.
Ça sera peut-être pour le prochain. voilà.
On écoute une autre chanson, « Croire, obéir et combattre ».
Croire, combattre et obéir.
Le jour viendra où ils devront fuir.
Croire, combattre et obéir.
Le jour viendra où ils devront craindre les pires allées. T'as une tombe payée, tu veux le garder pour toi. Tant que tu ne quittes pas, tu en as le droit. T'as choisi d'être qui n'est. C'est la dernière mort où tu peux encore tenir tête. Alors
croire, combattre
et obéir. Le jour viendra où ils tomberont pire.
Croire, combattre
et obéir. Le jour viendra où ils tomberont craindre le pire.
Louis, parmi les autres références, on trouve des groupes de musique et des titres de chansons appréciés de vos héros, Lanzer, Screwdriver, à plusieurs reprises, et Brutal Combat. Ce sont des choix personnels ou ces groupes avaient une large audience à l'époque?
Les deux, mon capitaine. Lanzer, c'est parce qu'ils ont quand même tous fini en taule, hein, quand même, en 2003, pour leur prise de position. Donc, aller en taule uniquement pour jouer de la musique, en gros, hein, en Allemagne. Donc, je leur devais un petit hommage. Deuxièmement, Screwdriver, parce que Screwdriver, c'est Ian Stewart. Ian Stewart, c'est 220 chansons. C'est un militant exemplaire. C'est courageux. C'est incontournable.
Oui, et je crois que vous avez fait un livre sur Ian Stewart.
Oui, en 2020, où j'ai fait la biographie, la première d'ailleurs, de Ian Stewart, Blood and Honor, en français, parce qu'il y en avait très peu déjà en anglais, mais il n'y en avait pas du tout en français.
C'est ça. Quel éditeur?
Pardon ?
Quel éditeur ?
Déterna.
C'est Déterna, voilà. Donc...
Chez... Ouais, Déterna, celui de le nouveau, là, est chez Oda Izard. Hein,
oui, c'est pas même, le même éditeur, les... on le mettra, ouais. Et donc, ouais, oui, parce que vous êtes un auteur prolifique, mais
ça va,
oui. Là, on s'intéresse uniquement à la musique, donc à vos productions musicales.
Oui.
Là, c'est et pas
brutal,
une production.
Brutal Combat, attends, vous m'avez parlé aussi de Brutal Combat, parce que Brutal Combat était peut-être pas le plus radical, mais au niveau musical, au niveau du son, au niveau de la rythmique, ce qui est même très important dans le rock skinhead, ils étaient, je pense, les meilleurs. Avec un autre groupe qui s'appelait Snix, mais on peut pas mettre tout le monde. Hein.
Ouais, ouais.
Donc, Brutal Combat était quand même très, très fort.
On écoute Skinheads de Brutal Combat.
Oui.
We'll be right back. Dix, crâne rasé, Bruxelles et jean délavé. Ben Sherman, mon frère jaquette, c'est la dégaine des skinheads. Skin, skin, skinheads. Skin, skin, skinheads. Violence et rock'n'roll pour les rebelles du mouvement Oi. De la musique pour se rassembler et de la bière pour se défoncer. Skin, skin, skinner. Skin, skin, skinner. Souvent des heures, fouteurs de mer et bagarreurs. Toujours prêts pour la baston, quelle est notre sale réputation. Skin, skin, skinner. Skin, skin, skinner.
Paul-Louis, en fin de compte, c'est quand même un roman. Là on écoute beaucoup de musique, on parle beaucoup de Skinhead parce que c'est où ils interviennent dans l'histoire, mais on est dans un roman policier, hein, faut bien le rappeler, avec des confrontations avec la police qui sont un passage obligé. Les Skin avaient forcément quelques rapports avec les forces de l'ordre. Ils étaient toujours, c'était toujours conflictuel. Vous avez des souvenirs, une expérience de ça personnellement?
Oui, ils étaient tous conflictuels, il n'y a pas de doute là-dessus. En particulier en Angleterre, parce que le nombre était quand même énorme. Hein. On parle de plusieurs, dans les stades, on parle de plusieurs milliers de Skin pendant les matchs de foot. Hein. Donc quand vous en avez 2000 qui se battent contre les 2000 autres, ça pose un vrai problème. Donc à l'époque, on parlait vraiment d'un nombre énorme. Donc ensuite, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi beaucoup de paki bashing quand même. Hein, c'est-à-dire la chasse aux pakis.
Pakistanais, ouais, c'est ça.
Ouais, pakistanais, chasse aux pakis, chasse aux hippies, chasse aux teddy, c'est-à-dire les rockers, chasse à tout le monde en gros.
Chasse aux raids aussi.
Pardon ?
Chasse aux raids aussi.
Oui, chasse aux rouges, évidemment.
Bon, Redskin, oui, il y avait des...
Ouais. Non, oui, chasse aux Redskin, mais bon, les Redskins n'ont jamais été très nombreux. Ça, c'était une récupération récente des 10 dernières années. On a voulu faire des skinheads, mais il y en avait à gauche, il y en avait de gauche et tout. Ils étaient minoritaires, ultra minoritaires. Donc, bref, et donc, ils avaient une assez mauvaise réputation. Et bon, les flics n'étaient pas du tout... prenaient pas parti là-dedans, ils étaient tachériens la plupart du temps, donc ils allaient à la baston avec contre les Skins. Pour ça d'ailleurs qu'ils avaient le crâne rasé, c'est pour pas qu'ils les attrapent par les cheveux. Au départ, c'était la raison, c'était pas pour avoir l'air martial, ou il y avait vraiment une raison pratique, hein, c'est-à-dire que comme les mecs étaient à cheval, et ils les tiraient par les cheveux, donc bon, ils se sont rasés la tête. Et après, ils ont gardé cette. Les mecs n'étaient plus à cheval, mais bon.
Donc c'est faux de dire que c'était contre les hippies qui avaient les cheveux longs, ils avaient décidé d'avoir les...
Oui, dans les années 67-8, ouais, c'était vraiment un mouvement anti-hippie, anti-paquise, anti-hippie, et puis ensuite anti-immigré. Quoi. Mais ça s'est fait, disons, progressivement. Mais au départ, c'était, ils n'avaient pas beaucoup, à part leur bande à eux, chaque bande était vraiment leur territoire. Et les confrontations étaient vraiment... journalière, je dirais, quotidienne, et bon, ils étaient vus comme les méchants, quoi. Alors qu'ils étaient surtout anti-rouge au départ.
Alors, on va écouter un autre morceau oui. Britannique du groupe qui s'appelle The Ovaltinies.
Oui, ça, c'était les premiers. Alors, ça, c'était l'un des premiers groupes rock avant Screwdriver dans les années 79, hein, parce que le rock a été, en fait, fondé par le National Front. Dans les années 79, ils ont fondé ils ont fait un festival rock anticommuniste et il y avait quelques groupes à l'époque, ils ont eu beaucoup de mal à les trouver et il y avait les Ovaltinies qui ont fait deux trois morceaux, très peu.
Donc
c'est plutôt une rareté.
Ouais, ouais. Race and Nation, race et nation des Ovaltinies. Donc, on est toujours dans un roman. Les autres références dans le roman sont la drogue, le monde médical, la viticulture, la région parisienne, la campagne du Morvan. Il faut des descriptions irréprochables. Comment avez-vous procédé, Paul-Louis, pour votre documentation ?
Bah, j'ai une mémoire assez photographique. Et en plus, bon, j'aime bien parler des choses que je connais plutôt que du reste. Donc, il y a quand même maintenant beaucoup de sources de documentation en même temps. Donc, bon, ça, plus ça, je fais pas mal de recherches, comme dans mes bouquins, j'aime bien. Et donc, au bout d'un moment, on arrive à faire... Il faut que ça soit crédible, comme vous dites. Donc,
c'est ça.
Bon,
c'est
faut quand même que...
Ouais, il est crédible.
Si jamais il y a un mec qui prend le bouquin, puis qui dit, tiens, je vais aller dans la rue qu'il est en train de décrire. Et puis s'il dit, bah, c'est pas du tout ce qu'il a dans son... C'est pas du tout comme dans son bouquin. Bon,
la rue n'existe pas.
On passe un peu pour un abruti. Ouais. Donc, le mieux, c'est de faire vraiment que quelque chose qui soit effectivement réaliste.
D'accord. Pour terminer, je vous propose d'écouter une chanson du groupe Fracas consacrée au fusil mitrailleur de l'armée allemande qui intervient dans votre roman. L'arme, pas la chanson.
Ouais.
Hein. Donc, MG42 ouais. de Fracas.
1200 coups minute.
Alors tu viens notre assaut et le pic de ses entrailles. Tu les protèges, tu les coupes, tu justifies leurs actes. Tu dénonces qui veulent te préserver. Tu les feras rouges dans l'identité. T'es nos filles et ton majesté. Les gens mettent toute face à soi de trois mois. MG42. MG42. Tu mets les papiers des armes derrière l'écran. Mais les crimes sexuels, violeurs d'enfants. Va faire broute et hoche la tête. C'est pas que tu déverses des excréments. Tu es à l'affût d'une proie. Et c'est ce qui t'apporte, c'est toi.
Bon, Paul-Louis, il faut donner les références de votre ouvrage. Donc, vous avez écrit « Le hussard chez les skins » aux éditions Oda Izarn, un petit livre de 150 pages, donc à commander sur le site des éditions. Hein.
Exact.
C'est un petit livre, on ne s'ennuie pas, ça sort de l'ordinaire. Un roman avec des skins, je pense que vous êtes le premier. Et...
Non, mais, et le dernier.
Pas forcément, mais je sais pas s'il y en a eu d'autres. Moi, je suis pas un grand spécialiste du roman, mais quand même là.
En roman, bah oui, mais toujours dans des. Ils ont souvent le mauvais rôle. Dans celui-là, ils ont pas le mauvais rôle.
C'est ça
la différence.
Ouais, non, c'est sympa. Donc je vous le recommande. On s'ennuie pas.
Et, bah,
et puis,
gentil,
c'est facile. Vous avez déjà quelques références musicales avec l'émission pour avoir la musique de fond.
Ouais. Ouais.
Paul-Louis, je vous remercie et j'espère une prochaine émission pour un nouveau roman ou un nouvelle étude sur la
suite,
les musiques.
Il y aura peut-être une suite. Il y aura peut-être une suite, mais peut-être. Il faudra qu'on me le demande à genoux. Bon, allez, merci.
À bientôt.
En attendant.
Au revoir.
À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.
Chers auditeurs, je vous remercie pour... d'avoir écouté cette radio, d'avoir écouté cette émission. Et je vous donne rendez-vous dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le libre journal de la dissidence musicale dirigé par Thierry de Cruzy, émission préenregistrée le 18 février 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 21 février de 21h30 à 23h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.